9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Fabrice Bailly.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. On va parler de votre actualité, la rentrée 2020 de TF1 et même du groupe, de grosses annonces, de grosses nouveautés. On va démarrer par la fiction. Certaines ont été décalées de 2020 à 2021. D'abord, La Promesse. Pourquoi je commence par ça? Je vais vous le dire parce que c'est en partenariat avec Europe 1. Autant dire les choses, fallait commencer par quelque chose. C'est une création TF1, c'est 6 fois 52 minutes qui démarre ce soir avec un casting 5 étoiles. Sophia Essaïdi, Olivier Marchal, Laurent Deutsch, Natacha Régnier, Nadia Fares, Romasson Stévenin, je sais, ça fait 6 étoiles. C'est quoi l'histoire? Ça raconte quoi?
N'oublions pas Dis le Cruise.
Vous avez raison. Ça fait 7 étoiles, ça raconte quoi?
C'est remarquable. Écoutez, c'est un thriller qui se passe pendant la grande tempête de Noël 99, au cœur des Landes. Et autour de cette grande tempête qui a ravagé la France, il y a une petite fille de 11 ans qui va disparaître sans laisser de traces. Il y a un capitaine, qui est incarné par Olivier Marchal, qui va enquêter sur cette disparition. Et puis, à quelques centaines de kilomètres de là, il y a une jeune enquêtrice, qui est incarnée par Sophia Essaïdi, qui se trouve confrontée à une disparition similaire. Et on va s'apercevoir que les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Et sans spoiler, je peux vous dire qu'il y a une très très grosse surprise à la fin du premier épisode.
Et sans spoiler, je peux vous dire, bonne annonce.
De ces petites filles qui disparaissent, qu'on retrouve jamais, ça fait peur.
C'est possible qu'on la retrouve jamais, Charlotte?
On va la retrouver.
Une gamine qui s'évapore sur une route, sans témoin. Ce mec ne fait pas d'erreur.
Tu sais où elle est, la petite?
Ça fait 20 ans qu'il passe entre les mailles du filet.
Comment on fait pour coincer un type qui fait pas d'erreur?
Je suis sûre que ce type a fait d'autres victimes.
Tu veux la retrouver à tout prix. Tu veux savoir.
La Promesse, sur TF1.
Ça démarre ce soir à 21h. Ce sera tous les jeudis, un épisode ou deux épisodes?
Deux épisodes, tous les jeudis, pendant 3 semaines.
Et le super twist, c'est quand?
C'est ce soir.
Waouh.
Dès le premier épisode.
C'est déjà disponible sur Salto depuis quelques jours. Pourquoi pas sur Netflix comme l'avait été par exemple le Bazar de la Charité?
Parce que le Bazar de la Charité faisait partie d'un partenariat de financement qu'on a fait avec Netflix et qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Voilà, donc là il est sur Salto comme d'autres fictions pour se retrouver sur d'autres plateformes que ce soit sur Disney+, ou sur Amazon par exemple.
Quoi d'autre en matière de fiction? Il y a un homme d'honneur, je ne connais que le casting mais quand même c'est des noms. Gérard Depardieu, Cadmerade.
Oui, un homme d'honneur, c'est aussi avec Zabou Breitman. C'est un thriller qui raconte l'histoire d'un juge au-dessus de tout soupçon qui est Cadmerade, qui par un concours de circonstances va devoir un petit peu tordre un petit peu sa loi personnelle et se retrouver un petit peu dans un engrenage assez complexe. Voilà, c'est très très remarquable et ce sera dans les semaines qui viennent sur TF1.
Et c'est l'adaptation d'une série israélienne, c'est bien ça, qui s'appelait Your Honor.
Absolument.
L'affaire Grégory sera traitée sur TF1 sous le nom d'une affaire française. Là, c'est la réussite de la série sur Netflix qui vous a donné envie?
Pas totalement, parce qu'en fait, on avait ce projet avant. En fait, c'est aussi un petit peu un mode de narration comme il a pu être fait aux États-Unis avec American Crime Story qui racontait l'histoire de O.J. Simpson.
Ouais.
Et en fait, quand les producteurs qui sont fédération sont venus nous voir, ils nous ont dit voilà, on aimerait traiter en fait une grande affaire française sous un mode où en fait, d'une manière très, clinique, factuelle, avec une très grosse importance donnée à la reconstitution historique, aux détails, aux faits. Et je peux vous dire, pour avoir vu la totalité des épisodes, que voilà, on est replongé dans cette affaire à cette époque, avec là aussi un casting 7 étoiles.
Donc c'est pas romancé, c'est plus fidèle à la réalité.
Absolument.
Mais alors c'est la question qu'on vous posez. Si c'est fidèle à la réalité que vous avez refait l'enquête, qui est le coupable?
Non, on n'a pas...
Est-ce que ça répond à cette question-là?
Non, pas du tout. On a repris exactement les faits, rien que les faits.
Et on s'arrête là.
Et
on reste sur ça, parce que vous vous souvenez de cette fiction qui avait été créée par M6, où ils indiquaient une piste pour la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est absolument pas le cas. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'on peut trouver un cousinage par rapport à la série documentaire sur Netflix.
HPI avec Audrey Fleurot, c'est une policière particulière.
Ouais, c'est une policière particulière. En fait, c'est une femme de ménage qui a un haut potentiel intellectuel, d'où son nom HPI, et qui...
Attendez, c'est pas un haut potentiel, elle a 160 de QI.
Absolument.
Ça dépasse Einstein.
C'est un peu une Sherlock Holmes, et qui va en fait devenir consultante pour la police. C'est un peu dans la lignée de ce qu'on a pu faire avec Balthazar, c'est-à-dire une série policière avec énormément d'humour, de très bonnes enquêtes, et des caractères incarnés, et là, par une grande actrice, Audrey Fleurot.
Balthazar qui cartonne vraiment.
Ouais, très bien marché.
On dira un mot de l'Access, mais d'abord, je vais parler des gros programmes qui arrivent. Il y a le retour, il y a Ninja Warrior qui a démarré.
Qui a très bien démarré.
Il y a le retour de The Voice. Alors là, je n'ai pas bien compris parce que vous annoncez deux versions. Il y a un The Voice normal, 2021.
C'est comme le Coca-Cola. Il y a le Coca-Cola classique et puis il y a ses dérivés.
Oui, mais sauf que là, ce n'est pas du light, le deuxième. C'est l'inverse du Coca. Jury composé pour The Voice normal, si j'ose dire. Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney. Et surtout, un The Voice All-Star avec un jury à 5 au lieu de 4. Voilà. Avec Florent Pagny, Jennifer, Zazie, Mika, Patrick Fiori, c'est bien ça.
Ouais.
All-Star, ça veut dire qu'il y aura d'anciens participants à The Voice.
Absolument.
Il y aura genre Amir.
Il y aura en fait...
Moi j'ai deux Lavega, Kenji Girac.
La totalité. Alors eux, ils participent à The Voice, mais du côté des coachs. En fait,
ah,
ils aideront
moi,
à une étape.
Savoir, les... c'est est-ce que les anciens...
Mais la totalité des candidats de The Voice All-Star qui sera, d'une manière ou d'une autre, une façon de fêter les 10 ans de The Voice, ouais. Puisque ça fait maintenant déjà 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, c'est qu'en fait, tous les candidats sont des anciens de The Voice, des gens qui ont participé
à
The Voice.
Mais comment ça va se passer si aucun fauteuil ne se tourne? C'est humiliant.
Ça peut arriver. Je peux vous dire une chose, c'est comme quand on fait un peu un Koh-Lanta All-Star.
Ouais.
C'est-à-dire, ils sont encore meilleurs que les meilleurs.
Ouais.
Donc, le niveau va être extrêmement élevé. Nous, on a déjà enregistré les auditions à l'aveugle et je peux vous dire que le niveau est incroyable.
Ah ben ça,
et il y a, cette fois-ci, il y a deux niveaux de lecture. Il y a à la fois le niveau qui est incroyable. Et franchement, les coachs étaient hallucinés. Et deuxièmement, le plaisir de se dire « Ah, je le reconnais, je crois savoir qui c'est. Je l'ai même parfois eu dans mon équipe. »
C'est programmé pour quand? Vous pouvez le dire?
Ça, ce sera programmé au deuxième semestre.
On n'a pas parlé de Koh-Lanta. Justement, vous en parliez. On en parle juste après ça. Vous restez avec nous, Fabrice Bailly. C'est le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. Il a plein d'annonces à nous faire.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions de TF1, Noël est passé, mais il est venu avec dans sa haute plein de programmes. Koh-Lanta, chaque saison une grosse nouveauté. Il y avait eu par exemple la participation d'anciens candidats, ou les jeunes contre les vieux. La nouveauté, la dernière édition, je vais y arriver, les quatre équipes aux couleurs des quatre côtés de la France. Cette fois, il y aura quoi de nouveau dans Koh-Lanta?
Il y aura un nouveau décor, et pas des moindres, puisqu'on a été tourné en Polynésie française. Donc à l'autre bout de la Terre, dans des décors incroyables, avec des épreuves aquatiques magnifiques. Et je peux vous dire, visuellement, c'est stupéfiant.
Et sur la mécanique, qu'est-ce qui change?
Sur la mécanique, vous savez, on le dit rarement à l'avance. On laisse toujours la surprise. On dira qu'on revient à certains fondamentaux. Je fais un peu de teasing.
Ouais.
Voilà.
Bon, le fondamental, c'est quand même de se mettre sur des poteaux.
Oui, pas seulement.
Et des gens qui ont faim. Le retour d'une famille en or, j'en reviens pas que ça revienne. Pardon de ce pléonasme, c'est avec Camille Combal. Je réexplique pour les plus jeunes, deux familles qui vont tenter de repartir avec une cagnotte de 100 000 euros. Sauf qu'à l'époque, c'était en francs. Et à part ça, vous avez tout changé.
Oui, en fait, ça vient d'un désir de Camille de réinterpréter ce jeu, je dirais, avec tout son talent, son humour, je dirais, voilà, sa sauce personnelle. Donc, on a tourné plusieurs numéros de La Famille en or. C'est très, très réussi. C'est à la fois un vrai jeu, mais à la fois vraiment un grand moment d'humour. Voilà.
Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça peut partir en cacahuète. Il y aura des vannes, il y aura des magnétos, il y aura des sketchs. Exemple de magnéto, exemple de sketch. C'est pas un jeu tel qu'on les connaît, classique, orthonormé.
Ben, disons que certaines questions seront tournées sous forme de sketch. Je dirais des virgules. En fait, c'est vraiment un très grand moment d'humour, comme il peut y avoir sur certains jeux à l'américaine, justement, où par moment l'humour prend le pas sur le jeu. Ce sera un très grand divertissement.
J'ai deux questions. Ça sera quand et ça sera quand? Ça sera quand à l'antenne et ça sera programmé quand dans la semaine? Parce que c'était une quotidienne, il y a une famille en or,
ouais,
en Access,
ouais,
non, si je me souviens bien.
C'est un programme d'Access,
ouais.
Ça c'est clair, et ce sera dans les semaines qui viennent.
Et ça sera en quotidienne?
Oui, absolument.
Pas comme Burger Quiz qui était une quotidienne qui est devenue hebdo sur
non,
TMC.
C'est une quotidienne sur TF1.
Et que vous allez mettre à quelle heure?
Bah, en Access.
Mais oui, mais votre Access, il est déjà blindé.
Non,
et il marche
blindé,
très bien. Il y a les familles XXL.
Ouais, ça
ensuite,
marche très, très
il y a
bien.
Deux feuilletons.
Ouais, ici tout commence, qui est vraiment un carton.
Il vous reste quoi comme place?
Incroyable. Ben voilà, les familles XXL, elles ne sont pas tout le temps à l'antenne. Je dirais que je voudrais vraiment revenir, on parlait de la fiction, sur le succès d'Ici tout commence, qui est quand même un succès mais phénoménal, parce qu'on a multiplié par plus de deux, on a plus que doublé l'audience de la case. C'est un succès qui a été immédiat. qui continue à se renforcer. Hier encore, on a fait plus de 4 millions, on fait 27% sur les sites publicitaires. C'est un énorme succès, Ici Tout Commence. Et le duo Ici Tout Commence, Demain Nous Appartient, a fortement renforcé notre access, ce qui fait d'ailleurs que depuis qu'il a l'antenne, depuis début novembre, on a affiché nos records d'audience en novembre et décembre.
Puisque vous parlez de duo, je ne sais pas si c'est un duo, mais en tout cas c'est un binôme. TF1 attendait beaucoup de District Z, nouveau jeu d'aventure créé par Arthur et sa société de production Satisfaction. Gros moyens humains, financiers, sauf que les audiences dégringolent, émission après émission. Ça fait partie de la vie des chaînes, tout ne peut pas marcher tout le temps. Mais certains de vos concurrents s'en sont pris à Arthur et à TF1. Exemple lundi, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a montré une parodie dans laquelle il apparaît grimé en rat Aprikian, directeur général des contenus de TF1, dans lequel il déplore le vrai faux rat Aprikian, déplore les audiences de District Z. C'est une parodie du film Le Professionnel. Je suis obligé de raconter tout le contexte, sinon on ne comprend pas. Film avec Belmondo. À la fin du film, Belmondo se fait descendre par un sniper. Et là, en l'occurrence, ils ont remplacé le visage de Belmondo par celui d'Arthur. Et on voit Hanouna en faux Hara Aprikian qui donne l'ordre de tirer avec cette réplique. Il nous a fait plus de mal en 3 semaines que Bernard Montiel en 20 ans de carrière. Il faut le stopper. Fin de citation. Réaction.
Réaction, je crois que vous avez tout dit. Et je crois que c'est ce que vous avez tout dit aussi lors de votre chronique à 9h10. Je ne vais pas revenir sur cela qui est un petit peu désolant. Voilà. Je voudrais juste...
Non, il faut dire quand même ce qu'avait dit Charles Decamp, parce que moi je voudrais continuer là-dessus. Ouais. Cyril Hanouna, hier, en fin d'après-midi, a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il refuse toute autocritique et il dit alors on n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de faire des parodies. En gros, que veut TF1? Qu'est-ce que vous répondez à cette relance de Cyril Hanouna?
On ne répond pas à la relance. Je pense que tout a été dit. Voilà. Fin de l'histoire et fin du sujet. Moi, ce que je voudrais dire sur District Z, c'est quand même une création française. On dit souvent qu'il n'y a pas assez de création française.
Ouais.
Donc Arthur, il a développé un format depuis 2 ans. Il a accompli un travail remarquable sur ce programme qui est en passe d'être exporté à l'étranger. Sur District Z, on a démarré extrêmement haut. Alors évidemment, forcément...
Vous avez démarré à 5,3 millions.
Oui, mais sur les sites publicitaires, on reste à des niveaux très élevés. C'est-à-dire on a démarré à des niveaux records, on reste à des niveaux très élevés. Et pour vous dire, si on pense que c'est un échec, ça veut dire qu'on est masochiste, pense qu'on est en train, très probablement, de préparer une seconde saison.
Ah, ça c'est une information, parce voilà. Que les scores de la dernière n'étaient pas très très bons, pardon de vous le dire, 2,7 millions pour la dernière le 1er janvier, vous étiez deuxième avec 1,3 million téléspectateurs de retard sur un téléfilm en rediff.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une chaîne qui vit de la publicité, et c'est une émission qui marche très bien sur des cibles jeunes et sur les cibles publicitaires. Donc pour nous, c'est une satisfaction District Z.
Je parlais de duo et de binôme. L'autre souci avec District Z, c'est que pour beaucoup de gens, l'émission comporte beaucoup de similitudes avec Fort Boyard, notamment pour Alexia Laroche-Joubert, qui est la productrice de Fort Boyard. Elle a envoyé un courrier à Arthur et sa société Satisfaction. Elle dénonce des problèmes, je cite, en matière de violation du format. Elle se dit prête à entamer des poursuites devant les tribunaux si rien n'est fait. Question, est-ce que vous avez retiré certaines séquences trop ressemblante des montages à venir?
Non, absolument pas. Parce que c'est comme si on disait, lorsqu'on a lancé Voice, c'est comme si on disait « Ah, ça ressemble beaucoup à Nouvelle Star ». Oui, ça fait partie de la même famille de programmes, mais ce n'est pas du tout une copie.
Je vous en parle, parce que vous êtes dans une situation très délicate, puisqu'Alexia Laroche-Joubert, c'est également elle qui produit pour vous une émission emblématique de TF1, Koh-Lanta.
Je vous rassure, Philippe, on n'est pas du tout dans une situation délicate. On arrive à très bien gérer tous ces problèmes en même temps.
Et vous leur dites quoi aux uns et aux autres? Qu'est-ce que vous dites à Alexia Laroche-Joubert et qu'est-ce que vous dites à Arthur?
Alexia Laroche-Joubert, on lui dit ce qu'on vient de vous dire.
Ouais.
Et aux autres, c'est-à-dire...
Arthur et sa société Satisfaction.
On lui dit, continuons à travailler ensemble. Et ma foi, je pense qu'il y a des marges d'amélioration sur District Z pour faire une très bonne seconde saison. On va attendre évidemment les résultats de l'audience de demain soir. Mais je peux vous dire, c'est assez bien parti.
Juste un petit mot qui nous concerne un peu, parce que c'est l'émission Rétroscopie présentée par notre copine Hélène Manarino sur TMC, qui a très très bien marché.
Absolument.
Il y avait un très bon score avec Jean-Paul Rouve comme invité, comme fil rouge pour la première émission. Qui pour le second?
On est en train de travailler avec le producteur sur le second. Ça a été un des noms qui a été évoqué, en effet. Je voulais vous dire, sur TMC, quand même, TMC, c'est en 2020, la première chaîne de la TNT. Et je voudrais tirer mon chapeau à Laurent Bon et Yann Barthès, qui ont accompli une année record avec Quotidien, qui tous les jours fait plus de 2 millions de téléspectateurs, qui a tenu là-dessus pendant les confinements successifs. Ils ont été, eux et leur équipe, assez héroïques en la matière.
Merci beaucoup Fabrice Bailly. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1, donc également TMC. Puis je le rappelle, La Promesse démarre ce soir à 21h sur TF1. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. C'est l'autre événement, c'est l'arrivée d'Eva Rock dans ce studio pour son zapping du lendemain, avec une enquête pendant la tempête de 99. Et puis Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial Julien Bugier. Notre invité, c'est l'humoriste Haroun, qui sort un livre surprenant, c'est entre le comique et la philosophie. Ça s'appelle Les Pensées d'Héraclès. Et puis dans Les Indispensables, un roman à suspense et une nouvelle série au pays des cow-boys. Merci encore, Fabrice Bailly. À tout de suite.
C'est un plaisir.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.